Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines de Croissance, le podcast de Crélan pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous abordons la thématique de la numérisation. Nous avons pour ce faire un invité de marque, Georges. Georges, digitaliser en 2025 pour les entrepreneurs, ça veut dire quoi? Incontournable?
Ça veut dire surtout, est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? Ça, c'est la vraie question à se poser. C'est marrant parce que parfois, on me pose la question de dire, ben voilà, oui, on va digitaliser ou on va faire, par exemple, du marketing digital. Je me dis, mais il n'y a plus autre chose. Vous voulez faire quoi? Envoyer des lettres par la poste? Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, dire je vais me digitaliser est pour moi quelque chose qui est évidemment incontournable et qui n'a simplement pas d'autre sens que d'aller vers la digitalisation. Après, la vraie question sous-jacente que vous posez, évidemment, c'est pourquoi? Au-delà de pourquoi, c'est comment et que faut-il faire et qu'est-ce que ça veut dire.
Et on va en parler.
C'est magnifique.
Et on va commencer par l'éléphant au milieu de la pièce. C'est quoi le défi? Quel serait le plus gros obstacle justement pour ces entrepreneurs qui abordent la numérisation, la digitalisation? Voilà. On lui connaît plusieurs avatars, mais c'est quoi le plus gros obstacle pour des PME ou des structures qui sont en pleine croissance, donc visent une plus grosse masse critique? Oui. C'est quoi l'obstacle?
Quand j'étais jeune, je vais commencer par là, très jeune, j'avais 8 ans, mon grand-père m'a mis un ordinateur dans les mains et il m'a dit, voilà, tu vas apprendre à programmer. Et j'ai fait mon premier programme quand j'avais moins de 10 ans, qui était un petit programme en basique qui me permettait juste d'aller chercher en fait une variable et de la reproduire et de l'imprimer sur un écran. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est fondamental de comprendre ce qu'est la digitalisation et ce que ça veut dire et surtout ce qu'elle peut amener en termes de valeur. Le frein, je pense, c'est d'un entrepreneur par rapport à la digitalisation, c'est lui-même, en gros. C'est soit une croyance de ce que peut fournir en fait des outils digitaux, ou ce que peuvent fournir, pardon, des outils digitaux par rapport au coût qui est lié. Là, il y a beaucoup de différences souvent entre ce que les gens pensent que ça peut faire et le coût qui y est lié et en réalité ce que ça va produire. Je pense notamment à des outils no-code, par exemple. On sous-estime souvent le temps que cela puisse prendre pour mettre en place ce genre d'outils.
Ces plateformes, ces solutions qui permettent d'utiliser comme des briques Lego, mais numériques, pour coder par bloc.
Exactement, qui en tout cas la vocation ou l'ambition de pouvoir construire des applications sans devoir coder ou sans avoir besoin d'un développeur derrière. Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis juste que ça peut être plus compliqué qu'on ne le pense. Et le deuxième frein, c'est la connaissance. Et quand on est entrepreneur, on n'a pas toujours le temps de s'intéresser vraiment à ce qu'est la digitalisation, comment ça marche, tout simplement parce qu'on est dans le guidon et qu'on a plein de choses à faire et qu'on doit s'occuper de ses clients, qu'on doit vendre et que du coup, on espère avoir effectivement un spécialiste qui peut nous aider dans ce cadre-là. Et là, malheureusement, pareil, il n'y a pas un spécialiste de digitalisation. Il y en a plusieurs dans des secteurs différents, dans des approches différentes, en fonction de problématiques différentes. Et un point qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est vrai, c'est difficile de pouvoir trouver quelqu'un qui a vraiment une connaissance par rapport à ses propres problèmes et de trouver justement la bonne personne qui va pouvoir répondre à ces problèmes-là. Un généraliste, c'est comme en médecine, en fin de compte, va pouvoir vous donner un avis, mais il ne sera peut-être pas pertinent sur une spécialisation où vous allez chercher vraiment une réponse.
Oui, réorienter vers des confrères parce que c'est plus ciblé.
Oui, alors dans le digital, malheureusement, ça n'arrive pas très souvent.
Elle n'existe pas, la solution clé en main?
Non, malheureusement, elle n'existe pas. Ça, non, tout simplement parce que c'est aussi large que les possibilités d'une entreprise, tout simplement, que la digitalisation n'est rien d'autre, en fin de compte, qu'un outil qui doit répondre à une façon de voir les choses. Et quand je disais que l'entrepreneur est son propre frein, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que cet entrepreneur peut aussi faire pour se remettre en question sur l'essence même de ce qu'il fait? En gros, il doit lui-même se dire, OK, où est-ce que je peux encore améliorer certaines choses? Et seulement après se poser la question de la digitalisation. J'ai vu trop souvent en fait, des gens qui implémentent des outils trop rapidement, sans se poser justement les bonnes questions. Et après, ça amène des frustrations. Si vous êtes une PME, par exemple, qui est déjà au-delà de 15 personnes, je dirais, il y a quelque part aussi un danger auquel il faut faire attention, de frustration de vos utilisateurs, et du coup, effectivement, de rejet de certaines technologies et de revenir à des anciennes habitudes. Et là, vous passez dans d'autres soucis de gestion interne. Voilà.
Donc, l'étape initiale, l'introspection, pas forcément philosophique, mais la culture d'entreprise. Et puis, introspection, quel secteur, quel service, pardon, quel département, quelles unités opérationnelles, commerciales, logistiques. C'est comme ça qu'on aborde. On examine ce qui fait notre entreprise et puis on voit où on doit numériser.
Moi, j'aime toujours dire que quand on veut apprendre quelque chose, c'est très triste, mais il faut mettre l'effort qui va avec. Et ChatGPT ne va pas répondre à toutes vos questions en 3 minutes non plus. L'effort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, il faudra prendre le temps de s'y intéresser et de lire effectivement de la documentation ou de la littérature sur ne fût-ce que le B.A.B.A. de comment fonctionne la digitalisation de manière générale et après, effectivement, passer dans cette phase d'introspection. C'est comme en comptabilité. Si je ne vais pas pouvoir comprendre un bilan, si je n'ai pas des notions de comptabilité au départ, que j'ai acquises par moi-même. Ben, c'est le même principe. C'est exactement pareil. On ne peut pas prétendre avoir un avis éclairé sur la façon dont on doit digitaliser son entreprise juste parce qu'on est capable de faire un post sur Instagram ou Facebook.
L'image est assez illustrative. Les fausses idées, vous avez cité un mot qui me fait directement penser aux idées reçues, c'est le temps. On le connaît, le quotidien des entrepreneurs et des entrepreneuses qui sont dans des sociétés en pleine croissance, beaucoup de turbulences, et on a l'impression que ce temps, on en manque cruellement. Et donc, comment on arrive à surmonter, par exemple, cette fausse idée, à dissiper cette légende du temps qui manque, puisqu'on doit s'intéresser, apprendre avant de pouvoir examiner ce qu'on fait en interne. Comment on alloue ce temps qui est si précieux?
J'ai eu l'occasion de faire plusieurs entreprises. Il y en a une qui permettait de filmer des matchs de sport de manière automatique. Donc, c'est un système d'intelligence artificielle qui est capable de détecter des joueurs et une action sur un terrain de basketball au départ. On a commencé avec le basketball. Et qui est capable de filmer sans opérateur, sans caméraman, sans personne. Alors, quand est-ce que j'ai lancé cette société? On a commencé à travailler sur ce projet en 2009. On est aujourd'hui en 2025. Et en 2009, je peux vous dire que l'intelligence artificielle, quand j'en parlais, les gens se moquaient plus ou moins de moi. Et alors, dans cette expérience, il faut quand même bien savoir que moi, au départ, je n'étais pas, en 2009, un spécialiste d'intelligence artificielle. J'avais effectivement cette tendance de tech entrepreneur, donc quand même une bonne connaissance de l'IT. Mais l'approche du machine learning et donc de l'intelligence artificielle à ce moment-là changeait déjà tout et c'était un vrai paradigme de se dire « Ok, on va faire les choses différemment. » Premier point. Et second point, dans le basketball, je n'avais jamais travaillé dans le basketball, je ne connaissais rien au basketball en 2009. Et donc, j'ai décidé, tout seul, de prendre le temps de m'intéresser et au système de machine learning et d'intelligence artificielle et donc d'apprendre. Et après, je me suis intéressé aussi au basketball, tout simplement, et au sport pour comprendre effectivement comment ce sport fonctionne et comment fonctionne le marché du sport, etc. 2009, pour vous donner une idée du temps que cela a pris avant qu'on lance la boîte, vraiment, on a lancé la boîte en 2012. Et donc, c'est le temps que j'ai décidé de prendre pour devenir effectivement un expert en la matière. Donc, je crois qu'effectivement, en tant qu'entrepreneur, il faut se poser les bonnes questions en fonction de la taille que l'on a, effectivement, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, la moitié de mes tâches que je pourrais donner à quelqu'un d'autre pendant un an pour me spécialiser, pour savoir quel sera le next step pour moi? Qu'est-ce que je veux que mon entreprise devienne dans 5 ans? C'est fondamental de se poser ces questions. Et ça revient sur votre première question de la digitalisation, qui reviendra effectivement après, de se dire, OK, comment est-ce que je vais utiliser ces outils-là plus tard pour améliorer mon entreprise? Et la question se pose encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, mais j'imagine qu'on en parlera un petit peu plus
on
tard.
On aborde un petit peu, de toute façon, elle est devenue omniprésente et on ne peut plus, pour cette raison, l'éviter. Je voulais offrir une petite métaphore qui vaudra ce qu'elle vaut. Hein. Les auditrices et les auditeurs seront seuls juges, mais pour essayer déjà de synthétiser ce que vous venez de nous offrir comme parcours, comme partage d'expérience, comme parcours entrepreneurial, avant de se lancer dans un jeu avec des ambitions de performer, il faut apprendre les règles du jeu. Et puis après, une fois qu'on a les règles, aller vers les finesses, vers les tactiques. C'est cette allégorie, cette métaphore qu'on peut utiliser pour la numérisation. Il faut inévitablement passer par, on doit voir ce que c'est réellement, où on en est réellement, et essayer de se projeter.
Oui. Vous avez dit en préambule, c'est pas un débat philosophique, mais en fait, ça l'est. En tant qu'humain et entrepreneur, vous devez savoir ce que vous voulez dans la vie. Un des dangers, c'est de se dire justement, ben, je travaille, je vais tous les matins parce que, au boulot pour effectivement faire mon travail. Et c'est difficile de s'arrêter et de se reposer les bonnes questions. C'est quoi les bonnes questions? La première question, je pense, qu'un entrepreneur doit se poser, c'est est-ce que je me lève le matin en étant heureux d'aller où je vais et de faire ce que je fais? C'est la première question.
Vous l'avez posé ce matin?
Oui, bien sûr. Et je suis content. Très content d'être ici. Mais très content le matin, effectivement, d'avoir effectué toutes les actions que j'avais effectuées ce matin et de mes rendez-vous. Je suis un vrai passionné de ce que je fais. Et le jour où je ne le serai pas, j'arrêterai. Ou je ferai autre chose. Ou je me remettrai en question. Ou j'essaierai d'acquérir une autre compétence. Et donc, c'est fondamental de vraiment savoir ce que l'on veut faire et qui on est. Parce que, de nouveau, la question du digital, elle est liée, en fin de compte, à ce que l'on veut faire et quel type d'entreprise on veut faire. Je donne un exemple aussi sur les questions d'impact et de type de société que l'on veut avoir ou d'entreprise que l'on veut faire. On a un peu cette tendance, notamment dans la presse, d'avoir un silo de profitabilité versus impact. Et ou alors, dans l'autre sens, on veut faire une société à impact, mais du coup, elle doit être rentable. Et c'est un peu un débat qui revient assez souvent sur la table. Pour moi, c'est un débat qui est incomplet. Pourquoi? Parce que justement, pour savoir ce que l'on veut faire en termes d'entreprise et qui on veut être plus tard, et après, du coup, choisir effectivement les outils digitaux qui vont y répondre, comme je disais, se réveiller et se dire « Ok, qu'est-ce que je veux faire ?» mais aussi « Quel projet d'entreprise je veux avoir ?» et qu'il ne soit pas utopique, quand même. Hein, on ne va pas sauver la planète avec 5 personnes dans une société à Bruxelles ou en Wallonie. Mais par contre, on peut avoir effectivement des rêves, des ambitions et les traduire justement en action. Et tout le projet entrepreneurial, c'est celui-là en fait. C'est de se dire, tiens, comment est-ce que moi, je vais réussir à transformer mon ambition en une entreprise qui va effectivement fleurir et qui va aller au-delà de la profitabilité. Dans mon expérience personnelle, toutes les sociétés dans lesquelles j'ai été impliqué, ça a été toujours le moteur. Toujours le moteur de se dire, tiens, ok, quelle est l'entreprise que je veux faire, à quoi elle sert et quel est en fait le bénéfice que j'amène non seulement à mes clients de manière holistique, mais aussi à la société. Est-ce que je vais changer quelque chose? Est-ce que je vais améliorer par exemple des processus existants parce qu'ils seront d'une part plus efficaces ou peut-être qu'effectivement ils permettront d'économiser des ressources naturelles d'une manière ou d'une autre et que ce soit avec la technologie ou pas? Ce qui revient à ma question précédente de se dire je me réveille et du coup, si je me dis, ben voilà, je peux améliorer la façon dont se fait un processus actuel, ben, par définition, aujourd'hui, dans tous les cas, en fait, la technologie sera impliquée, peu importe le secteur dans lequel vous travaillez.
On a souvent l'impression, pour les experts de la numérisation, de la tech, etc., qu'on doit ramener dans le sens du réel certains clients ou certains partenaires aussi, parfois d'autres entreprises. Est-ce qu'il y a eu à l'inverse des attentes ou des questions qui vous ont un peu aussi surpris, mais dans un sens ou challengé sur ce qui vous ont poussé à aller plus loin, à voir aborder des défis ou des perspectives autrement?
Alors, j'ai la chance d'être actionnaire dans une entreprise qui permet de générer des applications mobiles automatiquement, sans personne. On revient sur le no-code. Et je me rappelle donc, en discutant avec le CEO de la société, qui s'appelle Tanguy, je dis à Tanguy, on doit vraiment réussir, et c'est un vrai bon exemple, à se différencier de la concurrence. Mais c'est facile à dire. Mais la concurrence, aujourd'hui, dans ce type de marché no-code, application mobile, je vais quand même décrire un peu ce que c'est. Ces entreprises permettent de construire des applications. Vous parliez de blocs de Lego, mais donc effectivement, c'est du drag and drop. Donc, on va pouvoir prendre des blocs et on essaye de les mettre soi-même pour faire des écrans. Et puis, les écrans, on doit les enchaîner. Et puis, seulement après, on peut essayer de construire quelque chose. Mais du coup, on n'a pas de connaissance de base de données derrière. Donc, on ne sait pas comment ça va fonctionner. Et à un moment, on est bloqué parce que on est obligé, du coup, de concevoir malgré tout l'application soi-même en faisant du drag and drop. Et en discutant avec Tanguy, on s'est dit, mais en fait, il faut essayer de simplifier complètement cette procédure-là ou cette façon de faire. Et donc, il faudrait un outil qui permette de pouvoir construire automatiquement, tout seul, en fonction de ce qu'un client va demander, en fonction aussi de son environnement et en fonction aussi de sa problématique à lui, sans devoir faire appel à quelqu'un. Et donc ça, c'est un vrai différenciateur qu'il y a dans cette entreprise, c'est de ne pas demander en fait à l'utilisateur d'avoir une connaissance de base de données, d'avoir une connaissance effectivement de comment est-ce qu'on construit un écran, et de pouvoir le faire de manière fondamentalement complètement automatisée, tout en s'adaptant pardon, en fonction de ce que le client va donner comme commentaire ou modification. Et donc on simule un peu cette interaction entre une personne, donc une personne cliente, et du coup, comme si vous aviez un project manager qui vous écoute aussi et qui va comprendre ce que vous recherchez à faire. Arriver à ce niveau d'interaction est très complexe parce que justement, une personne n'est pas l'autre et qu'il y a toujours cet aspect humain. Et donc ça, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge d'arriver en fait à simplifier complètement un processus de création grâce à des outils. Et pourquoi on veut faire ça? On pourrait aussi poser la question, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas avec des humains, clairement? Ben là, on arrive de nouveau à la question de, en tant qu'entrepreneur, en tant que vision d'entrepreneur, mais ça, c'est quelque chose qui est lié à nous, c'est cette envie de pouvoir, évidemment, accélérer plus vite et d'avoir effectivement le plus grand nombre dans notre entreprise qui deviennent clients partout dans le monde et qui vont permettre justement de pouvoir résoudre ce genre de problèmes auxquels sont confrontées certaines personnes par rapport à la digitalisation justement. Et c'est vraiment venu d'une observation que j'ai eue en me disant en fait il y a des gens qui se battent pour essayer de trouver le bon outil, la bonne personne, etc. Tout est toujours trop complexe, toujours un peu cher et donc on va vraiment résoudre ces deux problèmes-là.
Est-ce qu'on est conscient que digitalisation irait de pair avec transformation numérique? Est-ce que c'est inévitablement un processus qui engage des changements à tous les niveaux, à toutes les personnes? On essaye de faire embarquer tout le monde ou sinon c'est l'entreprise elle-même qui ne parviendra pas à embarquer?
C'est quoi la transformation numérique? Moi, je vous pose la question.
Ah, j'allais vous la retourner. Est-ce qu'il y a une différence entre digitalisation et transformation numérique?
Alors, de nouveau, c'est toujours une question de définition. La digitalisation, je vais revenir à ma première réponse. Pour moi, c'est un mot qui veut rien dire. En fait, par définition, on est tous digitaux depuis qu'on a des smartphones dans notre poche. Voilà, point. Alors, transformation. Au sein de mon entreprise aujourd'hui, nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Yuma. Et au sein de Yuma, donc on est 600 personnes et on a vraiment réfléchi à comment est-ce que l'on peut travailler sur la transformation digitale. Et au lieu de la transformation digitale, on a écrit un manifeste qui s'appelle la transformation IA, donc AI Transformation. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, technologiquement, on est face effectivement à un paradigme qui est de comment est-ce que je vais pouvoir utiliser l'IA dans mon entreprise aujourd'hui, mais surtout, quel est le rôle de la société de l'IA aujourd'hui, et aussi, quel est le rôle de l'humain par rapport à l'IA et par rapport à l'entreprise. On vit aujourd'hui, en 2025, une époque dingue qui vaut en fait ce que le web était aux années 2000 parce qu'effectivement, les entreprises vont se transformer. Dans 10 ans, les entreprises ne fonctionneront plus de la même manière qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Comment est-ce qu'elles vont fonctionner exactement? J'en sais rien. Je ne suis pas ni devin ni futurologue. Je pourrais essayer, mais en tout cas, je n'ai pas la réponse. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le type de système qui arrive aujourd'hui et de la façon dont ils peuvent s'intégrer dans les entreprises. Et la question est souvent posée sur la transformation, effectivement, IA ou transformation digitale, par notamment nos clients. Et je vais répondre par les deux questions qui reviennent le plus souvent. La première question, c'est comment est-ce que j'intègre ce genre de système dans un processus avec mes 3000 ou mes 4000 employés? Ça, c'est une première question, ou plus parfois. Et c'est pas trivial. Et la seconde question qui vient souvent, c'est la propriété des données et la souveraineté des données. C'est vraiment les deux questions principales qui reviennent le plus souvent. Et par rapport à ça, alors évidemment, il y a des éléments de réponse, mais ce sont des questions fondamentales qui sont intéressantes, non pas pour y donner une réponse tout de suite, mais de voir pourquoi est-ce qu'effectivement des chefs d'entreprise et des CEO se posent ce genre de questions. Et ça répond à votre question de la transformation digitale. C'est-à-dire que la question est de se dire, OK, quelle sera mon entreprise demain et quelle sera la place de l'humain demain au sein de mon entreprise par rapport à ces outils digitaux? Et je pense que les entreprises doivent se poser la question aujourd'hui, vraiment de se dire, OK, comment est-ce que je vais retravailler mes organisations demain pour qu'elle puisse interagir avec demain un collègue qui sera certainement virtuel. Et donc des interactions ou des équipes qui seront mi-humaines, mi-virtuelles. Et ça, c'est vraiment la vraie question de demain.
Et pour ramener ça à une échelle plus modeste, dirons-nous, pour celles et ceux qui nous écoutent, des entrepreneurs et des entrepreneuses en croissance, donc qui se sont fixés des objectifs, qui ont une vision, qui ont une ambition, qui savent répondre oui à cette question du matin ou est-ce que je suis heureuse ou heureux de me lever. Est-ce qu'il y a un moment que vous leur déconseillerez de lancer un chantier de numérisation ou est-ce qu'on doit y aller progressivement, étape par étape?
Alors, votre question est vraiment de se dire quand est-ce que je dois lancer un projet de numérisation? Est-ce qu'il y a un bon moment ou pas? C'est bien ça?
Ou est-ce qu'il y a un mauvais moment? Parce qu'on parle rarement du mauvais moment.
C'est vrai. Il y a plein de mauvais moments. Il y a toujours les mauvaises raisons pour ne pas le faire. Mais si je devais en trouver un, j'irais vraiment, s'il y a le feu dans votre entreprise, c'est le mauvais moment, bien sûr. Voilà, vous avez d'autres priorités. Si vous avez des problèmes financiers, si vous avez des problèmes de ressources humaines ou d'alignement, que tous les entrepreneurs de PME ont connu ou connaissent, effectivement. C'est marrant parce qu'il y a des paliers. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Donc, il y a des paliers comme ça qui sont toujours les mêmes. Donc, il y a la première fois où vous arrivez à 50 personnes. Avant ça, en fait, vous pouvez un peu travailler comme une tribu où tout le monde est plus ou moins copain, collègue et ça marche très bien. Et dès que vous arrivez au-dessus de 50 personnes, ça devient compliqué parce qu'en termes d'organisation, vous ne pouvez plus connaître tout le monde et vous avez tellement, du coup, d'informations qui transitent dans votre entreprise que vous êtes obligé de mettre en place certains process ou processus, effectivement, d'organisation. Donc ça, c'est une première étape. Seconde étape, c'est le double, c'est plus de 100 personnes. Et là, au-dessus de 100 personnes, vous êtes obligé de travailler avec du middle management et des gens qui vont prendre des décisions pour vous. Donc là, c'est vraiment le moment où il est impossible de garder le cap en tant que chef d'entreprise, que ce soit en termes de, justement, de vision ou effectivement de what's next, sans avoir effectivement quelqu'un d'autre ou d'autres personnes qui vont prendre en main toute une série de choses que vous faisiez avant. Et c'est très difficile en tant qu'humain de laisser partir certaines choses parce qu'on les fait bien, parce qu'on a l'habitude de les faire et qu'on se dit, ben, si c'est plus comme ça que ce sera fait demain, ben, peut-être que ce sera plus la bonne façon d'avancer.
Ouais, toute la problématique de la délégation.
Toute la problématique de la délégation et de la digitalisation, puisque c'est ça le sujet. Une fois qu'on arrive à 100 personnes, on arrive à des questions de RP, de processus, de réfléchir comment les choses étaient faites avant et donc comment est-ce que je vais peut-être les faire demain pour garder des vecteurs de croissance. Vecteurs de croissance n'étant pas spécifiquement économiques. Vecteurs de croissance qui revient sur ma première question de qu'est-ce que j'ai envie en termes d'entreprise? Où est-ce que je veux arriver? Moi, quand je discute avec des entrepreneurs, je pose toujours la même question. Qu'est-ce que tu veux en fait? Pourquoi tu fais une entreprise? Pour gagner de l'argent. Super, mais combien? Ouais, mais un chiffre alors. Donc, de quoi on parle en fait? Est-ce que c'est 500 000, 1 million, 10 millions, 100 millions? En fait, on a tous des chiffres différents. Et si c'est ça la raison, qu'est-ce que tu veux en faire après? Donc voilà, vous savez, il y a quand même un trait quand vous regardez les autres entrepreneurs que vous avez certainement aussi interviewés. On ne s'arrête jamais, je pense. Je crois qu'on a ça en nous. Donc, on se dit, ben voilà, c'est pas l'argent tellement le moteur. Oui, bien sûr, c'est important parce que c'est dans notre ADN aussi de, et on a été formé comme ça aussi d'avoir des, voilà, une certaine profitabilité. Mais en fin de compte, c'est toujours la nouveauté, la création de nouvelles choses, de nouveaux problèmes que l'on veut résoudre. Le mouvement, oui, c'est ça.
La progression, oui.
Et les interactions humaines, je pense qu'ils sont aussi fondamentales. Et de pouvoir justement trouver les bonnes personnes avec qui on va réussir à créer des choses, à créer des liens très forts. Et la place de la digitalisation là-dedans, il faut se poser la question, c'est de se dire comment est-ce qu'effectivement cela va s'intégrer dans mon entreprise. Et puisque la question était pour une entreprise plus modeste, c'est aussi vrai pour une entreprise de 5 personnes que pour une entreprise de 3 000 ou de 4 000 personnes.
Mais est-ce qu'on peut sauter alors à cette conclusion de se dire, pour cette question-là en tout cas, autant commencer quand on est 5 et de ne pas attendre de s'intéresser à la numérisation, la digitalisation, la transformation numérique comme levier de croissance ou comme levier de cohésion ou est-ce que c'est un conseil que vous donneriez?
C'est plus qu'un conseil, c'est une obligation. On ne peut pas ne pas se poser la question. Je reviens sur les croyances, parce que c'est quand même quelque chose qui va peut-être résonner pour certains auditeurs. Je vais donner l'exemple d'un site web. je suis une petite boîte, j'ai un site web, je veux faire un site web. J'ai le cousin de tonton Guy qui a 18 ans et qui connaît le digital et donc il va me faire mon site web pour 500 euros. Super. J'ai une boîte offshore avec trois Indiens qui vont me faire mon site web pour 250 euros. Voilà, je peux aller en ligne et j'aurai un super site web. Et puis, effectivement, j'ai des entreprises locales qui vont me proposer de faire un site web pour 3000 ou 5000 euros. Comment est-ce que vous faites pour faire la part des choses quand vous recevez en fait ces trois propositions et que vous êtes un entrepreneur avec une boîte de 5 personnes ou même 10 personnes? Super compliqué, parce qu'en fait, vous ne voyez pas la différence. Qu'est-ce qu'un client ou un prospect ou même un partenaire ou même quelqu'un qui ne me connaît pas va se dire en voyant effectivement un site web et l'information qui s'y trouvera? Ce n'est pas tellement le design qui est important en tant que tel. Il est important parce que le design répond à une information que je veux donner ou une communication que je veux donner. C'est pour ça que du coup, on va plutôt parler de design et de branding dans le digital, sont fondamentaux. Parce qu'ils sont exactement l'image de ce que vous voulez faire. J'ai envie de vous donner un exemple dans le retail. Prenons l'exemple d'un chocolatier. Un chocolatier, par exemple, imaginons que ce soit Pâques, c'est sa plus grosse période, c'est là qu'il fait ses plus grosses ventes. Si vous êtes chocolatier, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez donner en fait votre vitrine à faire par deux Indiens qui ne connaissent ni votre produit, ni votre magasin, ni votre environnement, ni exactement qui vous êtes? Ou est-ce que vous allez effectivement donner aux petits cousins aussi tout le risque de devoir faire votre vitrine qui doit attirer des clients alors qu'il n'a pas vraiment l'expérience, mais il sait juste comment est-ce qu'on peut aménager une vitrine? Ou alors est-ce qu'à un moment, vous allez vous dire peut-être que j'ai besoin de quelqu'un dont c'est vraiment le métier et qui comprend toute la chaîne et tous les aléas et tout le risque qui y est lié et peut-être payer effectivement un petit peu plus cher à ce moment-là? Mais ce sera très certainement plus rentable et au moins, en tout cas, ça vous fera moins de frustration à ce moment-là. Même chose pour le digital, exactement la même chose.
Encore faut-il savoir identifier ses réalités, ses besoins et les fonctionnalités qu'on vise aussi. Donc, on revient à ce travail qui demande du temps, qui demande des efforts. Est-ce que ce serait le mot de la fin? Le conseil synthétique pour une bonne transformation numérique?
Comme dans tout, si vous allez chez le médecin, comprenez ce qu'on vous raconte, prenez un second avis, écoutez, lisez. Et effectivement, c'est le mot de la fin, c'est la même chose pour le digital, c'est la même chose pour l'IA. Essayez de comprendre comment ça fonctionne. Prenez des formations, ça vaut la peine de prendre du temps, de prendre une formation d'un jour ou de deux jours. Et sur cette base-là, effectivement, consultez des spécialistes pour vous aider et vous accompagner.
C'est du temps qui ne sera pas perdu et qui permettra de grandir. Merci beaucoup, Georges.
Merci à vous, à bientôt.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. Suivez-nous, partagez ce podcast et laissez-nous vos commentaires. Rendez-vous aussi sur crelan.be pour plus d'infos ou auprès de votre agent Crelan. À la prochaine fois.